Alors ce soir, vous êtes vraiment bénis pour être là, parce que ce que nous allons faire, c'est un petit peu différent. Ce soir, nous étudions le livre de Zacharie. Ce que je propose de faire ce soir, c'est que de voir un survol sur ce livre, parce que le livre est très particulier. Et c'est pour cela que je trouve qu'il est absolument nécessaire que vous ayez comme une vision globale des choses avant que nous puissions voir les petits détails au fil des dimanches à venir. Sinon, on risque de se perdre dans ces petits détails. Parce que depuis longtemps, on a du mal à interpréter les prophétie de Zacharie. Un des problèmes, c'est que si nous voulons appliquer ce qui est écrit à l'Église, par exemple, il y a plein de détails qui sont un peu conflictuels, qu'on est presque obligé de jeter par la fenêtre ou d'ignorer. Ou bien, si nous appliquons ces prophéties dans le jour où ça a été écrit seulement, là aussi, on a du mal et on a presque l'envie de dire que Dieu, il n'est pas à la hauteur de tout ce qu'il a promis. Alors, si nous regardons cette prophétie dans son contexte historique, mais vu aussi, comme je crois que ça a été voulu, comme une image donc de la nation Israël, depuis le jour où c'est écrit jusqu'à la fin du monde, là, du coup, ça ouvre beaucoup de choses et ça devient clair. Mais c'est un livre qui est un peu particulier. D'abord, la moitié du livre consiste à des visions, 8 visions qui sont aussi un peu obscur. Ensuite, il y a 2 chapitres où on pose une question et on répond à cette question pendant 2 chapitres. Et puis, il y a entre les chapitres 9 à 14 comme une présentation de l'histoire entre Israël et le Messie. La première venue de Christ jusqu'à son retour sur terre. Mais je crois aussi nous pouvons trouver une autre clé. Et c'est dans le nom du prophète, comme ça a été le cas dans plusieurs d'autres livres. Ici, ça ne fait pas l'exception. Zacharie veut dire que l'Éternel s'en souvient. C'est le grand thème. Il se souvient. Zacharie lui-même, qui vivait à l'époque d'Agé. Il était prêtre. Il est sans doute né en Babylone, en captivité. Mais il est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Et dans un mois à peu près, quand nous commençons dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, nous allons voir que beaucoup de choses que nous allons voir ce soir et au fil des semaines à venir, sont repris dans l'Apocalypse. Mais comme ils sont amplifiés, le thème, encore, c'est vraiment basé sur le nom de Zacharie. L'Éternel, il s'en souvient. Et pourquoi dire ça? Pour la même raison qu'on pourrait le dire avec Agé. On parle du peuple d'Israël qui revient de sa captivité. Et il revient dans une terre abandonnée, où il y a beaucoup d'obstacles. Et le peuple perd leur vision un petit peu. Ils arrêtent de travailler sur le temple. Ils avaient 2 bons prophètes. Il y avait un Agé qui était bien précis, succinct. Il disait les choses avec franchise. Et puis, pour un peuple qui a perdu un petit peu la vision, il y avait Zacharie qui leur a donné 8. Zacharie qui n'est pas aussi direct, pas tout le temps. Zacharie qui donne cette envie de regarder vers le futur, de garder l'espoir pour la venue du Messie. Il utilise aussi ce qui a été déjà dit, notamment dans les prophètes de Daniel. Mais c'est avant tout, c'est bien de vraiment de garder ceci en tête. Ce que nous avons dans le livre de Zacharie, c'est pour ça que j'aimerais faire ce petit survol ce soir, c'est que c'est un livre pour la nation d'Israël, pour le peuple juif, avec plein d'applications pour nous aussi. Mais c'est pour ça que si nous comprenons ce qui est dit dedans, j'ai trouvé dans mes expériences que c'est aussi un livre assez puissant que nous pouvons utiliser pour justement les gens d'origine juive qui ne comprennent pas encore que Jésus est le Messie, comme c'est le petit prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. Alors, nous commençons donc avec la petite introduction, les premiers 6 versets. L'8e mois, la 12e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Berechia, fils d'Ido, en ces mots. L'Éternel a été grandement indigné contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, oracle de l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre toujours? Cependant, les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas été à vos pères? Ils sont revenus. Ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon notre conduite et nos agissements. Les premières 6 versets font vraiment l'introduction, ça nous aide à comprendre d'où il vient dans sa pensée. Il est en train de rassembler à nouveau le cœur du peuple pour qu'il bâtisse et qu'il s'avance pour le Seigneur, qu'il s'avance pour l'œuvre qu'ils ont abandonnée à cause des doutes, à cause des obstacles, la persécution. Et maintenant, il leur rappelle que, en fait, c'est l'Éternel qui les a appelés là. Et s'ils ne font pas ce qu'ils savent qu'ils doivent faire, bah, c'est du péché. Il faut qu'ils reviennent. Comme pour tout péché, il faut revenir. Il faut se repentir, l'abandonner, revenir. Et c'est ça ce qu'il dit. L'Éternel se laisse par contre trouver par ceux qui le cherchent. Et maintenant, il veut donc lui montrer quelque chose de nouvel pour les inspirer. Donc, ce livre est vraiment un compliment à tout ce que nous avons vu la semaine dernière. Il commence avec la première vision. La première vision est assez intéressante. Donc, ça vient à peu près le même temps, verset 8, juste pendant la nuit. La vision que voici un homme qui était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtilles dans un lieu encaissé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Et je dis, « Que sont-ils, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir ce qu'ils sont. » L'homme qui se tient parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés parcourir la terre. » Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtilles. Et ils disent, « Nous avons parcouru la terre. Et voici que toute la terre est en repos et tranquille. » Cet homme sur le cheval, et ben, nous apprenons donc par la suite qu'il est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est une personne que nous voyons souvent dans l'Ancien Testament, notamment nous pensons dans le livre de Josué, lorsque l'ange de l'Éternel s'adresse à Josué, qui tombe et cet ange reçoit en fait la louange. Nous voyons dans cette personne, donc la personne préincarnée, donc de Jésus, qui se tient donc dans ces arbres qui représentent en quelque sorte Israël, parce qu'il y en a beaucoup partout là-bas. Tout est calme. Les autres chevaux sont derrière lui en attendant la fin, la restauration d'Israël. Tout est calme, tout est prêt, mais nous voyons surtout le cœur du Seigneur. Regardez verset 16, excusez-moi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Oracle de l'Éternel des armées, et le cordeau sera entendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes déborderont encore de bien. L'Éternel consolera encore Sion. Il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Donc, il est là, il est prêt, tout est calme. Comme politiquement, à cette époque, c'était aussi calme. Il n'y avait pas de guerre, il y avait une paix, plus ou moins, bien sûr, dans le monde avec l'Empire Médé-Perse. Et nous voyons l'ange de l'Éternel qui est prêt, qui veut se tourner vers Jérusalem. Regardez où est son cœur. C'est vers Jérusalem. Ça évoque aussi les paroles du Seigneur lorsque, dans l'évangile de Luc, où il monte vers Jérusalem, il commence à lamenter sur elle. « Oh Jérusalem, Jérusalem, si tu avais seulement reconnu le jour de ta visite !» Le cœur du Seigneur est toujours pour cette ville, pour son peuple. La première vision. Et la deuxième vision, c'est un peu différent. C'est donc quatre cornes qu'il voit. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Celles-là, que sont-elles ?» Il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » Et l'Éternel me fit voir quatre forgerons. Que vient-il faire ? Il répondit en ces mots, « Voilà les cornes qui ont dispersé Juda à tel point que nul ne lève la tête et ces forgerons sont venus pour troubler et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. » Alors pour ceci, ça nous aide de connaître déjà le livre de Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, on parle des cornes sur des bêtes. Et dans le livre de Daniel, les cornes sont un symbole, donc au moins d'une personne, mais d'autres rois de pouvoir. Et aussi cette division de quatre. En Daniel, on parlait surtout des quatre grandes puissances qui vont diviser le monde entre Babylone, les Perses et les Mèdes, les Grecs et finalement les Romains. Et si nous révisons un petit peu l'histoire, nous voyons qu'avec Babylone, là, ils ont exilé justement le peuple juif. Après les Perses et les Mèdes, ils ont permis que certains reviennent donc encore pour les disperser. Les Grecs ont aussi fait pas mal de choses en Israël en faisant les choses à leur sauce. Et puis, les Romains, quand ils ont détruit Jérusalem, ben là, ils ont vraiment dispersé le peuple juif partout dans le monde connu de leur époque. Mais l'Éternel envoie des forgerons pour détruire cette œuvre. C'est-à-dire, comme Jésus a dit, pour ramener des élus des quatre coins de la terre, pour ramener donc le peuple Israël à nouveau à lui. Alors, ça va donc avec la première vision. Vision où l'Éternel, il est prêt à agir. Les quatre cornes, sont allés, dispersés, mais les forgerons sont prêts pour détruire et faire revenir ce qui a été fait. La troisième vision, c'est une vision concernant Jérusalem même. Et je pense que nous pouvons même voir des choses aujourd'hui qui sont accomplies dans cette petite prophétie. Il demande qu'il y ait un cordeau à mesurer, un peu comme un règle, si vous voulez, pour mesurer la ville. Verset 6. Où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est la largeur et quelle est sa longueur. Alors, pour nous, aujourd'hui, c'est difficile à comprendre pourquoi mesurer une ville, surtout avec à un mètre, si vous voulez. Ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, surtout dans une ville qui vient d'être à peine habitée, ce n'était pas très grand. Il faut dire que même lorsque David a capturé la ville de Jébus, qui devient Jérusalem, c'était encore plus petit. Et si vous avez l'occasion, et je souhaite vraiment que vous ayez l'occasion d'ici de paradis, d'aller voir Jérusalem, vous pouvez voir toujours la cité de David. Et vous allez voir que ce n'est pas très très grand. Alors, pour eux, de mesurer une ville, bon, c'est un peu différent comme pour nous aujourd'hui. Mais il dit que quand il va le faire, ça va être extrêmement grand. Et c'est à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Aujourd'hui, quand nous voyons déjà Jérusalem, c'est très grand, c'est très répandu partout. Ce qu'on appelle même Jérusalem de l'Est, ben ça c'est sur le mont des Oliviers, ça c'est même pas dans les enceintes de l'ancienne ville. Ben, l'ancienne ville, ça fait une toute petite partie de Jérusalem actuelle. Mais bien sûr, il y a des temps futurs évoqués. Mais regardez, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butin, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voilà pourquoi il envoie les forgerons pour détruire. Il dit que celui qui touche à mon peuple, donc à Israël, c'est comme on touche à la prunelle de son œil. Et si vous ne comprenez pas tout à fait à quoi ça veut dire, essayez de mettre le doigt dans votre œil. Et vous allez remarquer que vous ne pouvez pas d'abord, parce que ça fait mal et vous avez des réflexes, des bons réflexes, j'espère, pour vous arrêter avant que ça ne fasse. Pour l'Éternel, il dit, toucher à mon peuple, c'est pas une petite chose. Et ça, c'est pourquoi il y avait des choses étranges qui se passent dans l'histoire, où même la nation Israël actuelle, ils ne se rendent pas compte du fait que comment ça se fait dans la guerre, par exemple, de Yom Kippour, il y a longtemps, quand il semblait que tout le monde arabe était contre eux, que miraculeusement, dans un espace de quelques jours, ils ont refoulé toutes ces armées. L'Éternel, il garde une place spéciale pour eux. Alors, bien sûr, l'Israël actuel n'est pas cet Israël en vue dans ses prophéties. Ils sont aujourd'hui un État laïque. Ils n'ont pas accepté le Messie, mais Dieu garde quand même une place assez chère dans son cœur pour eux. Par contre, comme il y a souvent dans les petits prophètes et dans tous les prophètes, et un de ces versets, c'est le verset 15. « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple et demeureront au milieu de toi et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Et ça, c'est aussi une chose qui se réalise même aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens partout qui n'ont aucune racine en Israël, qui ne sont pas du tout d'origine juive comme moi, mais qui sont converti, l'Éternel est mon Dieu, et je suis donc une fille de Dieu grâce à l'adoption par le sang de Christ, et c'est merveilleux. Aussi, il y a des chrétiens en Palestine, il y a des chrétiens en Israël, il y a pas mal de gens d'origine juive qui reconnaissent Jésus comme le Messie qui habite dans cette terre. Vous voyez, ces choses sont en train de se mettre en place. Et puis nous passons à la quatrième vision, qui est le chapitre 3. Et c'est une très belle histoire où il y a Josué, le souverain sacrificateur, qui est devant le trône de Dieu. Il y a Satan qui l'accuse parce qu'il porte des vêtements sales. Josué, il représente Israël, qui, à cause de leur péché, ils sont souillés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ange dit donc à Satan que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Ça nous dit beaucoup sur le diable, ça nous dit aussi beaucoup sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas la peine de trop parler donc à l'ennemi. S'il tape à votre porte, quelqu'un a dit « Cherchez Jésus pour l'ouvrir. » Et Dieu le purifie, le nettoie et il lui donne une pierre avec les sept yeux, donc les sept esprits gravés avec un nom, et c'est aussi repris dans le livre d'Apocalypse, la quatrième vision. Donc, voyez la progression. L'Éternel qui est prêt à ranger les choses, il rassemble son peuple, il bénit donc la ville de Jérusalem, il les nettoie de leurs péchés dans une vision qui crie vraiment de Jésus. On a vraiment les empreintes du Sauveur autour de ça. Et puis, la cinquième vision, peut-être la plus fameuse des visions, c'est le chandelier d'or avec les deux oliviers. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce chandelier, verset 2 de chapitre 4. C'est un chandelier tout en or avec une vase à sommet et portant sept lampes, et avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet de chandelier, le surplombant deux oliviers, l'un à la droite d'une vase et l'autre à sa gauche. Et puis il explique. C'est normalement une chose qui ne peut pas exister, surtout à cette époque. Il y a donc cette lampe qui est remplie automatiquement, spirituellement, surnaturellement, avec ces deux oliviers qui font partie de ce service, ces deux oliviers qui sont représentés par Zorobabel, le chef, et Josué, le souverain sacrificateur. Et il dit que c'est impossible. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Josué, tu ne peux pas, Zorobabel, tu ne peux pas le faire toi-même. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de machine qui écrase des oliviers pour faire de l'huile automatiquement, pour justement allumer ces lampes. C'est un miracle. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'ils ont un grand travail devant eux. Et lorsque nous verrons le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, il prend cette vision et, par l'Esprit Saint, on l'amplifie encore. Et puis, passons à la sixième vision. La sixième vision, qui est un peu plus obscure. Je lève les yeux et juste la vision que voici, un rouleau volé. L'ange me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole, qui... » Il a 20 coudées de longueur, 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand à la surface de tout le pays. En effet, d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et après elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la reprends, oracle de l'Éternel des armées. Afin qu'elle entre dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Donc, c'est un rouleau qui vole sur toute la terre et qui condamne la terre. Et regardez avec quoi il condamne la terre. Il condamne leur péché. Les choses qu'ils ne doivent pas faire, des choses qui sont d'ailleurs dites dans les 10 commandements. Il ne faut pas porter de faux témoignages. Il ne faut pas voler. Alors, il est intéressant aussi que lorsque nous lisons l'Épître aux Galates, nous lisons que, en fait, la loi devient malédiction pour nous parce que maudit soit celui qui vit par la loi. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour vivre dans la loi. La loi est bonne, elle est sainte, elle est parfaite, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes impuissants pour l'accomplir. Et nous avons une vision donc de ce rouleau de la loi qui juge en fait les nations, qui juge la terre entière, parce que ils avaient et ils savent en fond d'eux-mêmes, comme il est dit en Romains chapitre 2, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Alors, la loi condamne, elle prépare donc la terre pour justement le jugement à venir. Et regardez la prochaine vision. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, « Lève-toi donc les yeux et regarde qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce que c'est ?» Il dit, « C'est le boisseau qui sort. » Il ajouta, « C'est que l'on voit de dans tout le pays. Voici qu'un disque de plomb se souleva et qu'il y avait une femme assise à l'intérieur du boisseau. » Il dit, « C'est la méchanceté. » Il la rejeta dans l'intérieur du boisseau. Il jeta la masse de plomb sur l'ouverture. Je levai les yeux et juste la vision que voici deux femmes. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cygnon. Elles enlevèrent le boisseau entre la terre et le ciel. Et elles partent. Alors, il y a la loi donc qui survole la terre. Et puis, nous voyons que le Seigneur est en train donc de nettoyer, d'enlever donc la méchanceté, le mal, pour que ça revienne à Babylone. Il y a certains donc qui insistent vraiment sur le fait que c'est Babylone, parce qu'ils interprètent, et c'est tout à fait tenable dans les Écritures, que dans les derniers jours, ils voient donc une Babylone qui se lève à nouveau. Huitième vision, chapitre 6, c'est les quatre chars, c'est la dernière vision. Je levai de nouveau les yeux. Et juste la vision que voici, quatre chars sortaient d'entre les deux montagnes. Les montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Troisième char, des chevaux blancs. Quatrième char, des chevaux bruns tachetés. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Cela, que sont-ils, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars sortent vers le pays du nord et les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent dans le pays du sud. Les bruns sont sortis et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et les chars parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui sortent vers le pays du nord apaisent mon ardeur contre le pays du nord. C'est une vision à comparer avec Apocalypse 6 lorsque il y a ces chevaux qui sortent aussi chaque fois qu'il y a un seau qui s'ouvre, qui va aussi dans cette même idée, une idée donc de conquête, de destruction, de guerre. Alors, si nous suivons donc la logique des visions, le Seigneur qui est prêt à mettre les choses en ordre, le peuple d'Israël qui sont ramenés, parce que les cornes sont brisées, Jérusalem qui grandit, parce que l'Éternel a mis son affection, leur péché enlevé, puis un renouveau spirituel, la terre donc être prêt pour être jugé par la loi, la méchanceté enlevée, et puis donc les quatre chars et les chariots, donc le jugement commence sur la terre. Et donc nous commençons avec le cheval et le chevalier, et nous terminons ainsi aussi. Où il est prêt, et puis ça va jusque donc ce jugement annoncé. Et ainsi nous terminons donc la première partie des visions. Ensuite, ce qui vient, c'est des paroles. D'abord une parole sur le temple, et puis une question qui vient du peuple, suivie par des réponses ou des paroles, paroles de l'Éternel. Puis ça suit comme ça. Mais la première parole est intéressante. Verset 10 de chapitre 6, « Tu prendras les dons des déportés, » il donne les noms là, hein, « et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes. Et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yahotzedak. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera des insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il aura d'autre part un sacrificateur sur son trône. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment une image de Jésus. Parce que nous avons une image d'un souverain sacrificateur et un roi. Normalement, ce n'est pas le souverain sacrificateur qui est le roi. C'est deux personnes dans deux tribus différentes. Ça, c'est le sujet de l'Épître aux Hébreux. Mais il vient une personne qui est à la fois roi et souverain sacrificateur à l'image de Melchizedek, qui est la personne de Jésus-Christ. Ce qui est absolument éblouissant dans tout ça, c'est que Josué est le nom d'où vient éventuellement le nom Jésus. Aucun hasard là-dessus, et il faut qu'ils aient ça et qu'ils gardent ça. C'est donc une image messianique, encore bien expliquée dans le livre aux Hébreux. C'est messianique parce que c'est le souverain sacrificateur qui est couronné. Wow. Ça, c'est pourquoi certains juifs orthodoxes aujourd'hui croient fortement que quand le Messie vient, disent-ils, il rebâtira le temple. Or, si nous regardons la prophétie de Daniel et en 2 Thessaloniciens, nous avons plus raison à croire que ça serait plutôt un antéchrist qui va permettre qu'un troisième temple soit bâti. Et justement, Antichrist, c'est donc un faux messie. Il faut que, pour qu'il soit un Antichrist, qu'il soit proclamé messie. Alors, il paraît que même aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont tout prêts à proclamer la première personne, donc qui permet ce troisième temple à être construit, le messie. Après cela, vient donc la question. La question c'est, depuis que les Babyloniens sont venus, nous jeûnons. Alors, là tu annonces des choses qui sont merveilleuses. Est-ce qu'il faut continuer à jeûner? Alors la réponse de l'Éternel est formidable. C'est vraiment à l'image de Jésus. Vous rappelez, quand vous lisez les évangiles, les gens posent souvent les questions comme ça à Jésus. Et chaque fois qu'il répond, c'est jamais exactement comme il le faut. C'est pas oui ou non, mais c'est toujours droit au cœur, là où il y a le véritable problème. Ben, regardons comment l'Éternel va répondre à cette question. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez vraiment selon le droit. Ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. N'opprimez pas le veuve et l'orphelin, l'immigrant et le malheureux. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit, par l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, vous demandez si vous devez prier ou pas, occupez-vous de ce qui est important. Arrêtez d'opprimer les gens. Arrêtez de pécher. À quoi bon ça sert de faire tous ces rites religieux si vous faites n'importe quoi? Il va direct à la source. Et puis, une chose qui est intéressante, en chapitre 8, il pose pour un moment et parle à eux parce que normalement, ce n'est pas le jeûne qui devait faire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, ces gens-là? Rebâtir le temple, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça ce qu'il dit. Allez, et commençons. Verset 2, « Je suis jaloux pour Sion. D'une grande jalousie, je suis saisi pour elle, d'une grande brûlante ardeur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne de la sainteté. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards, hommes et femmes âgés, assieront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur les places. » C'est un encouragement. Allez, bâtir, rebâtir la ville. Vous savez, aujourd'hui, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir. Il y a des endroits où il y a des enfants qui courent, qui jouent. Il y a des hommes et des femmes âgés. C'est partout. Mais il y a encore autre chose à venir. Et puis, verset 9. Fortifiez vos mains, vous qui entendez en ces jours les paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où furent posées la maison de l'Éternel des armées, où le temple a été bâti. Car avant ces jours-là, il n'y avait pas du tout de salaire pour l'homme et point de salaire pour la bête. Il n'y avait point de paix pour eux qui entrent et qui sortaient à cause de l'ennemi. Je lâchis tous les hommes, les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, oracle de l'Éternel. Voici la sémence de la paix. Puis il parle de comment il va les bénir. Mais fortifiez-vous, il dit. N'oubliez pas ce que je t'avais dit de le faire. Et puis, finalement, il adresse donc ce problème de ceux qui jeûnent. Et il dit, verset 19, le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième, le jeûne du septième, le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté, de joie, d'heureuse solennité, mais aimer la vérité et la paix. Voilà la réponse. C'est que il va changer. Pleure en joie. Alors, allez au travail. Faites ce qu'il faut faire. Sachez que ces choses vont changer et ça compte. Ça, c'est vraiment, d'ailleurs, une bonne stratégie de l'ennemi. Il est toujours en train de nous faire penser que ce qu'on fait ne compte pas. Ah si, ça compte, puisque l'Éternel, nous avons demandé de bâtir et de le faire et de travailler pour lui. Comment vous voulez que ça ne compte pas? Même si vous ne voyez pas les fruits comme vous l'imaginez, qu'importe. Mais c'est le Seigneur qui va le faire en son temps de sa manière, et c'est toujours mieux qu'on puisse l'imaginer. Alors, la troisième partie. La troisième partie où il parle plus directement. Et nous voyons des choses absolument étonnantes vers la fin. Il commence avec des menaces contre ces nations qui ont touché donc, le prunel de ses yeux. Et c'est intéressant parce que versets 2 jusqu'à 8, on parle des endroits que Alexandre le Grand a détruit. Les choses que vous pouvez comparer, bien sûr, avec l'histoire, c'est des choses que nous avons vues aussi en Daniel. Et jusqu'à verset 8, nous voyons, « Je camperai autour de ma maison pour la tenir hors des tentes d'une armée, de celui qui passe et de celui qui revient. L'oppresseur ne passera plus sur eux. » Effectivement, lorsque Alexandre le Grand est venu pour détruire donc Tyr et Sidon et tous ces autres pays, il n'est pas entré en Jérusalem. Mais regardez comment ça tourne. Verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations. Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis les fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, vous reconnaissez le passage? C'est intéressant parce que Alexandre le Grand est venu avec un cheval. La légende dit que son cheval était si sauvage que seulement Alexandre pouvait le monter. Alors que Jésus, il entre à Jérusalem comment? Sur un âne. Un âne qu'il a prêté d'ailleurs. Et aussi, remarquez comment, c'est très typique chez les prophètes. Ils parlent d'un jour spécifique et puis ils parlent des choses très lointaines après. Nous savons qu'aujourd'hui, la règne de Jésus touche à peu près partout dans la terre. Mais c'est une façon spirituelle. Ce n'est pas encore physique, ce n'est pas encore toute la terre qui est soumise à lui. Et donc, nous comprenons par ces choses que c'est encore futur. Mais regardez, verset 13, il revient. Il dit, « Car je bande mon arc, c'est Juda, je le garnis, c'est Ephraïm, je soulèverai tes fils aussi en contre tes enfants, ô Yavin. » Et je te rendrai la parée à l'épée d'un héros. Yavin, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et là, nous avons une prophétie de ce qui a été dit aussi en Daniel parlant des Maccabées, la révolte maccabéenne, où c'est Israël, finalement, qui a enlevé donc cette joug oppressant des Grecs pendant cette certaine révolte. C'est absolument fascinant. Alors, chapitre 10, on va encore plus loin. Versets 10 et 11, nous parlons des bergers, des faux bergers. Le véritable berger, le bon berger, est un faux berger à venir. Alors, lorsqu'il dit, verset 1 d'ailleurs, « Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps, l'Éternel produira des orages, il leur donnera une averse de pluie et donnera à chacun de l'herbe dans sa campagne. » Je crois que là, on parle littéralement de la pluie. Ces terrifiants qui ont des paroles de mauvaise aloi, des devins ont des fausses visions, des rêves qui expriment des paroles vides, consolent en vain. C'est pourquoi ils sont errants comme le menu bataille. Voyez, on parle des anciens faux docteurs, des faux bergers. Verset 3, il le dit, « Ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'interviendrai contre les boucs. » Est-ce que ça vous fait penser à un autre passage aussi où Jésus parle de séparer des brebis et des boucs? Là, on parlait des bergers qui deviennent des boucs. En fait, ces gens-là, ils prédisent donc des bénédictions de pluie et de récolte et tout. Mais l'Éternel dit, je suis contre eux parce que je les ai jamais envoyés, finalement. Et, verset 4, de lui sortira la pierre angulaire, de lui le piquet, de lui l'arc de gueule. De lui sortira tous les chefs ensemble, ils seront comme des héros, foulant la gueule, la boue des rues, ils combattront, car l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui sont montés sur des chevaux seront couverts de honte. Donc nous voyons quand même la sortie de la pierre angulaire, le héros. Bien sûr, Jésus qui sort. Et effectivement, pense un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. La condition des chefs religieux à l'époque. Diriez-vous, par majorité, ils étaient parmi les brebis et les boucs. Regardons tous les attaques et les contre-attaques contre Jésus. Dans les synagogues, dans le temple. Et puis au milieu de ça, il dit « Sors, la pierre angulaire ». Jésus aussi qui a cité cette phrase, la pierre angulaire. Et puis, ça continue aussi en chapitre 11. Ainsi parle l'Éternel, verset 4. Fais paître les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Chacun de ceux qui les vendent dit, béni soit l'Éternel, car je m'en réchis. Aucun de leurs bergers ne les prend en pitié. Effectivement, ça fait penser à ces terribles instances où les gens s'opposaient au Seigneur de guérir les gens le jour du sabbat. Lorsque Jésus entre en Jérusalem et tourne les tables, pourquoi? Parce que les gens vendaient et ils tournaient un profit sur le dos du peuple. Qui a fait cette commerce? Les prêtres. Et puis, regardez attentivement à partir de verset 10. Je prie ma houlette, tendresse, qui peut aussi se traduire par grâce. Je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les plus malheureux des brebis qui prirent garde à moi et reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Donc c'est l'Éternel qui parle au peuple. Donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le faites pas. Ils pèsèrent pour moi mon salaire de, combien? 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. C'est le sarcasme total. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 30 pièces d'argent à l'époque? Un esclave. Et voilà donc le prix. Tout dit bien avant. Je pris les 30 pièces d'argent et les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Exactement comme nous lisons dans les évangiles. Chapitre 12 s'ouvre vers la tribulation. Mais regardez bien cette première partie parce que vous allez voir un petit peu de l'actualité. Menace. Parole de l'Éternel sur Israël, oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même je fais. Regardez, moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Pratiquement chaque semaine, il y a quelque chose qui sort de Jérusalem. Et pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est même pas une ville avec un port. C'est pas une ville où il y a énormément de richesses. C'est situé sur des montagnes. C'est à deux pas d'un désert. Et qu'est-ce qu'il y a dedans pour que tout le monde est tellement intéressé sur ses frontières? Mais le monde entier est très tendu en ce moment. Parce que tout le monde sait que c'est de là où effectivement il peut avoir justement des plus grands bouleversements politiques de ce monde, en fait. Il parle de toutes les nations donc, qui l'entourent et que ça devient une coupe d'étourdissement. Mais regardez aussi verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça, c'est pourquoi il est très sage de faire attention à son politique envers, justement, Israël. Et puis, avec tout ça, regardez ce qui se passe, verset 10. On parle donc de cette guerre et tout, vous pouvez le lire après. Mais verset 10, il y a quelque chose de remarquable. Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils se tournent et regardent vers moi. C'est qui parle? Dieu qui parle. Alors, ils se tournent et regardent vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil, comme on porte sur le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et puis le deuil commence. Nous voyons donc un renouveau de la nation Israël. C'est là ce qui est prédit en Romains chapitre 11. Mais remarquez bien, il ne va pas avoir un renouveau pour Israël à moins qu'il ne reconnaisse Jésus, celui qu'ils ont percé. Parce que en Jésus est la vie. Et toute personne qui l'auront, il faut qu'il passe par lui. Comme nous avons chanté tout à l'heure, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, chapitre 13 commence une purification où ils enlèvent donc la souillure du peuple. Et ça commence une restauration. Verset 6, on voit encore, mais on lui dira, qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aiment. Mais regardez, est-ce que tous les personnes d'origine juive vont être sauvées? Regardez verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compatriote. Oracle de l'Éternel, frappe le berger et que les brebis se disséminent. Je tournerai ma main vers les petits. Alors, donc, vous reconnaissez le verset, bien sûr. Les deux tiers seront retranchés, périront, et l'autre tiers y restera. Donc, avec toute la tribulation, il ne va pas avoir tout le monde, malheureusement, qui va se tourner vers Christ. Mais, quand même, il y aura beaucoup. Et ceux qui restent, ça va être assez anonyme. Et enfin, chapitre 14, la fin, qui tend vers la fin de l'histoire. C'est un passage à lire avec Apocalypse 19 et Apocalypse 20. La seule chose, c'est que nous voyons que l'Éternel, en verset 4, il descend, il sortira, verset 3, excusez-moi, et combattra ses nations comme au jour il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est, vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Donc nous parlons d'un événement cataclysmique terrestre qui explique donc le changement topographique que nous voyons dans les livres d'Apocalypse et Ézéchiel. Mais imaginons la force justement de Jésus, donc qui met les pieds donc sur le mont des Oliviers, qui est juste en face. Voyez, vous connaissez certainement toutes ces belles photos de Jérusalem avec le dôme, avec tout en or. La majorité de ces photos-là sont prises sur le mont des Oliviers, donc pour vous donner une idée. Et Donc, il va poser les pieds. Et justement, c'est là où il y a tous ces troubles de Jérusalem, ce fameux Jérusalem de l'Est. Ben, il se trouve qu'il se pose les pieds là-bas. Ça déchire les montagnes. Et ce qui est aussi marrant, c'est que selon donc Ézéchiel et d'autres passages, il entre dans le portail de l'Est, une portail qui est fermée. En fait, ils ont mis de ciment et des briques autour. C'était des musulmans qui l'ont fermé parce qu'ils ont compris que c'est là où le Messie devait entrer. On voit toujours donc le portail, mais c'est fermé pour que le Messie n'entre pas. Alors, on peut très bien imaginer que le jour où Jésus pose les pieds sur le mont des Oliviers pour entrer en Jérusalem par cette porte de l'orientale, qu'il ne va pas avoir de problème pour franchir la porte. Enfin, ça termine avec la fête des tabernacles, où toutes les nations viennent pour célébrer la fête des tabernacles. Et ceux qui ne le font pas seront maudits. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons commencé notre histoire en âge et plutôt avec la fête des tabernacles. Et là, nous voyons en Zacharie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament dans la Bible hébraïque, nous terminons avec la fête des tabernacles, qui donne une idée de cette éternité, ce côté prophétique de cette fête, qui serait célébré sans doute en commémoration de notre temps avant que Christ ne vienne. Parce que quand il revient, bon, c'est ça le véritable demeure. Alors, toutes les nations viendront. Enfin, en conclusion, un survol sur le livre de Zacharie, même si je sais qu'il y a beaucoup de détails, c'est pour ça que je vous ai donné le petit schéma pour regarder à la maison, nous aide à voir quoi ? Nous aide à voir que c'est vraiment un livre pour le peuple juif, mais qui devient utile aussi pour nous. Il y a, nous allons voir au fil des dimanches à venir, certains passages qui s'appliquent bien pour nous aujourd'hui, pour toute personne qui est donc en Christ. Mais ça nous rappelle surtout de ce grand thème qui se trouve dans le nom du prophète. L'Éternel s'en souvient. Il s'en souvient. Il se souvient d'abord de son peuple. Il se souvient d'eux dans leur misère. Mais il ne reste pas inactif. Il a un plan. Il va résoudre tous les problèmes et il va les restaurer et il va accomplir à 100% la totalité de sa parole. Il se souvient. Pour nous, il se souvient aussi. Et même si nous traversons des moments difficiles, même si il semble que nous approchons à 200 km par heure, 200 km par heure, cet apostate total de l'Église, parfois, il semble, et où tout le monde se tourne contre Jésus et il n'y a plus personne qui reste. Ah, mais si, l'Éternel, il se souvient. Il se souvient de vous. Il se souvient de son Église. Et il ne va pas la laisser comme ça, abandonner, non. Quand Jésus a dit, je reviens pour vous, il le fera. Il se souvient et il reviendra. Un jour que personne ne le sait. Mais pourquoi pas ce soir? C'est lui qui a décidé. C'est lui qui peut le faire. C'est lui qui va le faire. Alors, pour nous, souvenons-nous de Zacharie, que l'Éternel s'en souvient. Amen.